Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, le Yémen sous pression.
C'est ça,
Pression
diplomatique avec cette nouvelle annonce d'accord obtenu au Conseil de sécurité de l'ONU sur un retrait des belligérants du port de Hodeïda hier. Alors les forces houthistes rebelles et les forces pro-gouvernementales soutenues par la coalition du Golfe sont donc censées se retirer de la ville depuis un accord conclu à Stockholm fin 2018, mais sur le terrain, c'est vrai que la calme tarde, en dépit des pressions internationales qui s'accentuent. Sans doute, on en parle avec vous, François Frison-Roche, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu, vous êtes docteur en sciences politiques, chercheur CNRS, spécialiste du Yémen. D'ailleurs, vous allez publier un article « Yémen, un contexte régional déstructuré » dans quelle revue prochainement ?
La revue Politique étrangère qui devrait sortir prochainement.
Voilà. Alors qu'on en vienne à la situation du terrain, cette annonce de plan de redéploiement détaillé par l'ONU. C'est la troisième annonce, je crois, de ce type depuis l'accord de Stockholm en décembre. Jusqu'ici, forces houthistes et forces de la coalition se sont accusées mutuellement de ne pas respecter le cessez-le-feu. Est-ce qu'il y a des raisons de croire aujourd'hui, plus qu'avant, à un retrait effectif de Hodeïda ?
Il faut l'espérer pour les Yéménites, il faut l'espérer aussi pour, j'allais dire, le renom de l'ONU. Vous indiquiez que les accords ont été signés au mois de décembre. Nous sommes quand même maintenant au mois d'avril. Il serait peut-être temps, en effet, que ces accords puissent être mis en œuvre pour ce pourquoi ils sont faits, c'est-à-dire arriver l'aide humanitaire au Yémen. Je rappelle que c'est quand même 18 millions de personnes qui sont en état de quasi-famine à l'heure actuelle.
Alors ça, c'est pour les pressions internationales. Autre ordre de pression internationale qu'on voit en ce moment de plus en plus, ce sont les pressions des ONG qui se multiplient pour obtenir d'un certain nombre d'acteurs étrangers qui cessent leur vente d'armes à certains des belligérants. La France, les États-Unis aussi, il y a eu une demande hier de l'ONG Crisis Group aux États-Unis de réduire leur soutien à l'Arabie Saoudite. Pour la France, c'est principalement des armes vendues aux Saoudiens, mais aussi des canons aux Saoudiens ou des chars Leclerc aux Émiratis. À quoi est-ce que ces demandes peuvent aboutir à tarir effectivement les flux d'armes, à votre avis ?
Je ne pense pas que ça va tarir les apports en armement, parce que ce sont des pays qui ont pu faire des stocks aussi. Et donc, je ne pense pas que à court terme, cela puisse avoir vraiment un impact. Maintenant, c'est vrai que la menace d'une suspension ou d'un arrêt des ventes d'armes reste peut-être maintenant le seul moyen de faire plier ces deux puissances régionales que sont l'Arabie Saoudite et les Émirats pour qu'ils décident enfin de concevoir qu'il serait nécessaire, normal, de se mettre autour d'une table. Alors, peut-être que ces pressions sont absolument nécessaires. Encore faut-il que les principaux pays concernés, c'est-à-dire les États-Unis et la Grande-Bretagne, la France de manière relativement marginale, sur le montant des contrats, la France est loin d'être le principal fournisseur de ces pays. Mais c'est peut-être, je crois, le meilleur moyen de forcer ces pays à se mettre autour d'une table. Maintenant, vous savez, il y a un autre problème qui va, une autre question qui va se poser. J'ai lu récemment que le Paris-Dakar devrait se dérouler en Arabie Saoudite.
En 2020,
j'attends de voir justement quelle sera la réaction de ces différentes ONG pour concernant cette manifestation sportive.
Ouais. À voir si le plaidoyer sera aussi appuyé. Par contre, autre ordre de facteurs internationaux qui interviennent et qui changent en ce moment, c'est la situation régionale que vous appelez déstructurée, justement, dans votre article. Là, on voit le Soudan qui bouge beaucoup, le Soudan qui est un des appuis au sol important de la coalition, puisqu'il y a beaucoup de combattants du Darfour qui sont employés comme combattants de la coalition. Hier, il y a eu une annonce du numéro 2 du Conseil militaire qui se veut rassurant. Nous tiendrons nos engagements à l'égard de la coalition arabe. Est-ce qu'il y a un risque d'affaiblissement de cette coalition si le Soudan vacille ?
Ah ben, oui, évidemment, car c'est un des paradoxes de cette guerre, c'est que l'Arabie Saoudite, par exemple, ne veut pas envoyer de troupes au sol. Donc elle a trouvé finalement des mercenaires et elle a acheté, en quelque sorte, l'appui politique du Soudan en lui promettant un certain nombre d'investissements. Le régime, l'ancien régime maintenant, on doit dire, du dictateur soudanais, on avait besoin. Maintenant, est-ce que le Soudan va aller jusqu'au bout? Je pense que oui, parce que les troupes envoyées sont sur place et puis on n'est pas au Soudan comme dans une démocratie avec une opinion publique qui serait capable de refuser cet envoi de troupes. Mais cela pose quand même la question...
Si c'est un régime civil, par exemple. Comment ? Si c'est un régime civil, dans ce cas-là...
Voilà, il pourrait décider que... il y aura un terme de mis à cette participation guerrière.
Et aujourd'hui, sur le terrain, on parlait donc de la situation à Hodeïda qui piétine, cet accord qui n'est pas appliqué. Quelle lecture est-ce que vous pourriez faire des intentions des belligérants? Donc il y a non seulement pas de retrait de Hodeïda ni de Taïz, il y a des bombardements qui continuent régulièrement à Sanaa, plus au nord aussi à Saada. Qui est-ce qui a véritablement envie d'arrêter la poussée aujourd'hui et l'offensive?
Mais manifestement, la coalition, les deux principaux pays de la coalition, l'Arabie Saoudite et les Émirats, ne veulent pas arrêter cette guerre. Parce que s'il y a eu les accords de Stockholm concernant Hodeïda, c'est parce que quand même l'Arabie Saoudite se trouve dans une position de faiblesse après l'assassinat de ce journaliste Khashoggi en Turquie. Donc les États-Unis ont pu faire pression pour que finalement il y ait ces négociations. Mais bon, je pense que la volonté politique n'est pas solidement enracinée dans ces pays-là. Ils ont envie d'en découdre, ils ne veulent pas perdre la face. Et donc, par tous les moyens, ils vont essayer d'annihiler les rebelles houthis. Donc, ils demandent par exemple qu'il y ait un cessez-le-feu à Hodeïda, mais en même temps... ils attaquent dans le nord, où ils sont aussi dans la ville de Taïz. Évidemment que les Houthis disent « Attendez, on négocie un cessez-le-feu et puis on nous attaque ailleurs ». Il faut essayer de trouver une espèce d'équilibre et c'est là où je crois l'ONU n'a pas véritablement compris la complexité et la globalité du problème yéménite. Si on veut que ça s'arrête à Hodeïda, il faut que ça s'arrête partout et qu'il y ait une négociation globale.
Et de ce point de vue-là, alors, est-ce qu'on a affaire, selon vous, plutôt à une rhétorique de la victoire de la part des belligérants, mais aussi bien là, saoudiens que houthistes? Parce que vous signalez aussi dans votre article quelque chose qui est intéressant, dont on parle peu, c'est les tensions locales ignorées qui se multiplient un peu dans tout le pays, que vous appelez bombe à retardement, et qui pourraient prendre à revers, en fait, ces deux belligérants qui ne sont pas du tout les seuls sur le terrain. En fait.
Oui, exactement. Il y a quantité de milices qui ont été formées. Au départ, c'était pour lutter contre la descente des Houthis et des forces militaires fidèles au président Ali Abdallah Saleh dans le sud. Donc, notamment les Émirats ont mis en place ces milices pour les ont armées, les ont formées et les payent. Mais ce sont maintenant des milices qui sont pour l'indépendance du sud. Et ce sont des milices qui vont éventuellement même lutter contre les forces qui sont fidèles au l'actuel président Hadi qui est reconnu internationalement. Donc c'est aussi un paradoxe de la guerre au Yémen. Les Houthis sont très bien aidés par les dissensions, non seulement entre l'Arabie Saoudite et les Émirats, parce qu'il y a aussi manifestement des problèmes, mais aussi sur le terrain entre les forces qui sont en train de se battre. Parce que certaines forces fidèles, par exemple, ou contrôlées par les Émirats, luttent contre des forces yéménites proches du président Hadi, soutenues par le parti Al-Islah, c'est-à-dire les frères musulmans.
Oui, ça veut dire que le format des négociations aujourd'hui entre deux belligérants n'est pas adéquat. Alors
Ben justement, on n'est plus dans le format 2015, on est maintenant en 2019, la situation a considérablement évolué et il faudrait en tenir compte.
Bien, merci beaucoup pour vos explications. Aujourd'hui, François Frison-Roche, on renverra à votre article quand il aura paru. Bien sûr, Yémen, un contexte régional déstructuré, une situation politique précaire, un conflit militaire de plus en plus décalé, dites-vous. Bien sûr, ce sera à suivre avec l'application de cet accord de Stockholm et le retrait potentiel de Daïda. Merci.